Et pour nourrir notre foi, comme on dit, je vous invite à entendre au chapitre 3 de l'évangile de Jean, l'entretien entre Jésus et Nicodème. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un des notables juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu ». Car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme pourrait-il naître s'il est vieux? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ?» Mais Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Mais comment cela pourra se faire ?» Et Jésus lui répondit, « Tu es maître en Israël ? Tu n'as pas la connaissance de ces choses. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et pourtant, vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous dis les choses de la terre, comment croiriez-vous si je vous disais les choses du ciel ? Et cependant, nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque ait en lui la vie éternelle. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, quiconque fait le mal est la lumière. Et refuse de venir à la lumière de crainte que ses œuvres ne soient démasquées. Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées, elles qui avaient été accomplies en Dieu. » Père, merci pour ces paroles qui portent en elles l'essentiel d'un message d'amour dont nous avons besoin. Amen. Et avant d'aller plus loin dans notre culte, je vous invite à prendre le cantique 279, c'est ça, « Confie à Dieu ta route ». Oui, Père, nous te remettons tout ensemble le poids de nos soucis, mais aussi la légèreté de nos joies, pour que tu bénisses tous ces instants, tous ces moments, pour que tout cela devienne pour nous une lumière nouvelle de nos vies, afin que nous puissions repartir dans la joie et dans l'espérance, selon ta volonté. Amen. Nicodème, avec Joseph d'Arimathée et quelques autres, fait partie de ces pharisiens de la haute société juive de l'époque qui sont membres du Sanhédrin et qui ont un esprit assez ouvert et curieux pour s'interroger sur la prédication de Jésus. Alors il vient avec une affirmation, trouver Jésus la nuit, il dit « Nous savons des choses sur toi », et en fait ils savent peu de choses parce que il y a avant l'épisode de l'entretien entre Jésus et Nicodème que deux événements, à savoir les noces de Cana, qui sont une annonce spectaculaire de la nouveauté du royaume avec l'eau qui s'est changée en vin, l'eau des purifications légales au vin de la Seine, évidemment qui sont là comme image. Et puis il y a les vendeurs chassés du temple. Et l'annonce du royaume, et puis dans le temple, dans l'enceinte, disons sacrée, il y a cet épisode des vendeurs chassés du temple qui montre qu'on est sur une autre, je dirais, une autre dimension de la religiosité, finalement, qu'il se passe quelque chose de nouveau. Alors, Nicodème vient de nuit. Alors souvent on dit, voyez, il vient de nuit parce qu'il a peur, et tous ces chrétiens qui n'osent pas s'affirmer parce qu'ils ont peur et qui pratiquent en cachette, etc. On aimerait bien être à la place de ceux qui sont bien obligés de faire cela, dire, eh bien, il est facile de critiquer lorsqu'on est tranquille dans son salon ou qu'on peut aller au culte facilement, dire, mais moi je pense que... Compte tenu du fait que nous sommes dans l'évangile, et en particulier dans l'évangile de Jean, nous avons là plutôt une indication symbolique plutôt que réaliste. Parce que la nuit, dans la Bible, symbolise souvent la mort. Et donc, on peut se demander si cette référence à la nuit qui enveloppe Nicodème ne nous dit pas que Nicodème est quelqu'un qui se pose des questions existentielles, des questions ultimes, qui est en recherche, comme on dirait aujourd'hui, qui vit quelque chose qui lui manque et qui lui ressent confusément qu'il a un rêve caché. Alors, si on entre dans cette manière de voir, peut-être que ce rêve non formulé, caché, inconscient, qui est là, eh bien, le pousse à aller trouver Jésus, peut-être pour essayer de faire émerger au niveau de la conscience quel est ce rêve qu'il a au fond de lui-même. Peut-être que cela est difficile pour lui parce que c'est un homme rationnel, c'est un homme peut-être un peu matérialiste qui est là, et accéder au rêve n'est pas si simple que ça. En fait, Nicodème vient et ne pose pas de questions du reste, et Jésus répond comme s'il répondait à une question. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et je me demande si finalement cette question à laquelle Jésus répond, cette question non formulée, n'est pas aussi notre question d'une certaine manière, c'est-à-dire la question du royaume. Comment voir le royaume? Comment participer à la vie du royaume? Alors, Jésus dit, il faut naître de nouveau et d'en haut. C'est un seul mot, anoten, qui signifie à la fois d'en haut et nouveau. Il y a ce double sens dans ce mot qui est utilisé dans l'Évangile. Et c'est intéressant. Il faut naître d'en haut, dit Jésus. Alors c'est vrai que nous avons des parents, bien sûr. Des parents qui nous aiment, dans la plupart des cas, je l'espère, évidemment. Mais il faut naître à partir de Dieu, en fait. Il faut naître à partir de la spiritualité, d'une autre manière qu'une manière matérielle, biologique, physique. Il faut puiser dans cette spiritualité et en Dieu les racines mêmes de la valeur de l'humain et de la dignité de l'homme. Quelque chose d'essentiel. Chaque être humain a de la valeur. Ce que je disais tout à l'heure à mes catéchumènes, chaque être humain a de la valeur. Chaque être humain, évidemment, marqué par sa naissance biologique, son appartenance culturelle. Vous voyez qu'il y a la sociologie, il y a la psychologie, il y a de l'histoire, il y a tant et tant de choses qui se mêlent là pour bâtir nos personnalités. Mais il n'empêche qu'à travers les différences des uns et des autres, il y a toujours une même valeur de l'humain qui s'exprime et de la dignité. Il faut retrouver cette valeur de l'humain, de la dignité dans la spiritualité, parce que cette valeur de l'humain vient d'ailleurs. Elle nous dépasse infiniment. Elle fait de nous véritablement des Christophes, c'est-à-dire des porteurs de Christ, des Christophores, des porteurs de Christ, des porteurs de lumière. Ce qui fait que personne n'est indigne dans ce monde. Et c'est pour ça qu'il faut chercher à revivre sans cesse et sans cesse en puisant à cette source d'eau vive, comme dirait l'évangile de Jean aussi, pour vivre à nouveau, pour renaître sans cesse. Alors, nous avons des épisodes dans nos vies qui signifient cette renaissance à laquelle nous sommes appelés. Évidemment, il y a le baptême, il y a qui était autrefois symbolisé par la robe blanche des baptisés. Il y a le mariage aussi, avec la robe blanche des mariés, enfin de la mariée, mais des mariés en fait. La confirmation du baptême aussi, pareil. Autrefois, les jeunes confirmés arrivaient dans les temples, je ne sais pas si certains s'en souviennent, tout de blanc habillés aussi. Et de même que les morts sont enveloppés dans un seul blanc normalement. Pas une question de pureté, mais c'est que le blanc signifie la résurrection et la vie éternelle. C'est ça la symbolique qui est exprimée dans ces habits. C'est-à-dire que nous avons tout au long de nos vies des renaissances qui sont possibles, des appels à renaître, à rebondir, à repartir toujours. Une nouveauté de vie et une espérance qui se dessine à chaque instant. Nous avançons sur des routes, il y a des carrefours, il faut passer par ici ou par là, mais à chaque fois il faut choisir la route, à chaque fois il faut repartir dans le bon sens. L'eau est là, elle est là matériellement pour nous signifier cette nouveauté de vie. Parce que l'eau purifie dans sa symbolique, elle purifie, elle fait vivre aussi, surtout pour les hommes du désert. Évidemment, l'eau est un symbole de vie extrêmement fort. Et nous le savons, le fœtus se développe dans la poche des eaux. L'eau est signe de vie. un signe très très fort et un signe de purification. Il y avait dans le rituel juif énormément de purification comme cela tout au long de la journée, hein, pour avant de manger, après avoir mangé, avant de faire une action ou une autre. C'est une symbolique qui est très très riche. L'eau, elle est là. Elle est là comme le signe visible de la grâce invisible, comme nous disons. Cette grâce qui est là, cette grâce qui marque la nouveauté de vie, qui marque cette renaissance qui est là, cette résurrection à laquelle nous sommes appelés tout au long de nos vies. C'est la liberté et c'est l'amour dont il s'agit, ici, à partir de ce que nous sommes déjà et à partir de ce que nous savons aussi déjà. Il y a des témoignages, il y a des histoires, il y a des expériences, des rencontres, des tas de choses. Jésus cite le serpent d'airain. Il dit, souvenez-vous, là, dans le livre des Nombres, on vous raconte que lorsque les Hébreux étaient mordus par des serpents, alors Dieu a fait élever par Moïse le serpent d'airain en haut d'une perche, et ceux qui étaient mordus et qui regardaient au serpent étaient guéris. Le serpent a sauvé les Hébreux. Préfiguration de la croix, évidemment, pour tous les chrétiens. Alors, on peut ne pas être d'accord avec cette théologie. Si la liberté est là, il y a aussi la liberté de ne pas être d'accord, évidemment, ça fait partie de la vie chrétienne et du risque de cette vie. Mais il y a quelque chose qui, quelles que soient les théologies que l'on prenne, les interprétations que l'on fasse, il y a quelque chose qui reste vrai, comme un rocher, comme un roc indestructible. C'est cette parole, moi, qui m'a particulièrement accroché dans ce texte que nous avons lu et que Jésus dit, Dieu a tellement aimé le monde. Il a tellement aimé le monde. Et c'est évidemment le verbe agapao, agapé, qui est là derrière, évidemment, pour nous dire cet amour de Dieu qui est un amour total, qui couvre à la fois les notions de l'éros, de la philia, de tout ce qu'on veut, de charis, tous les termes qui peuvent être là pour dire l'amour sont englobés dans ce mot d'agapé. Dieu a tellement aimé le monde, tellement, jusqu'à l'indépassable, jusqu'à la mort de Jésus. C'est un absolu, un absolu. Rien n'échappe, personne n'échappe à cet amour. Toutes et tous, nous sommes englobés dans cet amour. Et là, il y a deux conséquences. La première, c'est l'universalisme. Cet amour qui est affirmé dans la Nouvelle Alliance fait suite à l'Ancien Testament, à la Première Alliance. Comme nous l'avons lu tout à l'heure avec le livre d'Ésaïe, le petit passage du livre d'Ésaïe, où on voit bien que Dieu aime le monde, il aime son peuple. Dieu est proche, il se laisse trouver, venez si vous avez faim, etc. Et puis, il y a des nations qui vont venir. C'est vrai que cet universalisme dans la Première Alliance est centré sur Jérusalem, ce qui est déjà tout à fait extraordinaire et formidable. Mais avec Jésus, cet universalisme est lié à une parole que Jésus porte, qu'il porte dans le monde. Il va au Liban, il va en Syrie, on le sait dans les témoignages des évangiles, mais il va vers les exclus, les plus misérables, il va aussi vers les puissants de ce monde. Il n'y a personne qui soit laissé de côté, parce que Dieu a tellement aimé le monde. Tout être humain est aimé de Dieu. Les pires, mais aussi les sublimes. Les humoristes aussi sont aimés de Dieu, et de même que les gens sérieux, qui parfois sont trop sérieux. Mais est-ce que les gens le savent? Le savent-ils vraiment que Dieu a tellement aimé le monde? Aujourd'hui, nous savons que Dieu a aimé le monde par les enfants qui ont été présents et qui ont été baptisés dans ce temple du foyer de l'âme. Comme chacun d'entre nous qui ont reçu le baptême ou qui n'ont pas reçu, mais qui entrent dans l'écoute de cette parole de vie. Oui, l'universalisme est là. Il fonde quand même une fraternité entre les hommes. Il est le chemin de la paix, de l'espérance. Et puis, c'est une lumière. Dieu a tellement aimé le monde. C'est ça qui est clair. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas de jugement. Le jugement, le voici, mais en fait, il n'y en a pas. Il débouche sur une sentence. Il ne débouche pas sur une sentence ou sur une sanction. Mais le jugement, c'est la lumière. Justement, c'est la lumière qui éclaire et qui donne du sens, qui met en relief ce qui doit être mis en relief. Le jugement, c'est une vie qui est éclairée et qui nous renvoie à notre vie. Notre vie se révèle à nous-mêmes. Je ne sais pas si Nicodème est déjà bien loin, Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes autour de lui à écouter ce message. Pas très simple à entendre peut-être, peut-être énigmatique. Mais l'esprit qui souffle sans qu'on sache très bien ni d'où il vient ni où il va, qui est insaisissable, indéfinissable, cet esprit qui est Dieu dans lequel on peut s'abandonner en toute confiance, cet esprit fait naître d'en haut. Pour que, à partir de ce que nous sommes, tout simplement, nous puissions rebondir dans la joie et dans l'espérance. Paul, lui, parlera de l'homme nouveau dans ses lettres. Philippe ira baptiser un Éthiopien. Nous baptisons des enfants. Nous savons tous qu'il y a au cœur de chacune et chacun d'entre nous un rêve qui est inscrit. Consciemment ou inconsciemment, nous le saisissons, c'est le rêve du royaume. Ça ressort de manière un peu niaise, il faut le dire, dans des Walt Disney ou que sais-je encore, avec des princesses en rose bonbon et des jeunes princes parfaits, mais enfin bref. Mais cela qui parle au cœur des enfants dit en fait le rêve de tout un chacun. Certainement, nous avons un rêve caché, un rêve qui est inscrit au cœur de nos vies et qui affleure dans la lumière de Dieu et qui fait de nous véritablement un royaume de frères. Amen.